Oui, Seigneur, ouvre nos cœurs grands à ta parole, à ton esprit, et dispose-nous maintenant à écouter ce que nous ont transmis celles et ceux qui nous ont précédés dans la foi. Amen.
La première lecture se trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 17, versets 8 à 13. Amalek vint attaquer Israël à Rephidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et sors combattre Amalek. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse lui avait ordonné et partit combattre Amalek. Pendant ce temps, Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse tenait sa main levée, Israël l'emportait, mais lorsqu'il la baissait, Amalek prenait le dessus. Les bras de Moïse devenaient lourds. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple par le tranchant de l'épée.
Dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 3 à 8. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Cephas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme un enfant né hors terme. Amen.
Troisième lecture est de l'Évangile selon Marc, chapitre 3, versets 31 à 35. La mère de Jésus et ses frères arrivèrent. Ils se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. Une foule était assise autour de lui. On lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te cherchent. » Il répondit, « Qui est ma mère ? Et qui sont mes frères ? » Puis, regardant ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. » Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Amen.
L'été a peut-être été propice pour plusieurs parmi vous à retrouver leur famille, les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, ceux qu'on aime, ceux qu'on doit voir. Vous savez comme moi que les réunions de famille, des fois c'est agréable, des fois un peu moins, suivant les moments et les circonstances. Mais c'est toujours important. Et il s'y passe toujours quelque chose d'intéressant. Tout en gardant au cœur nos familles à nous, à chacune, à chacun, je voudrais vous inviter ce matin à rencontrer un peu plus celle de Jésus de Nazareth, et particulièrement son frère Jacques, qui, après la mort de Jésus, pendant 30 ans, conduira la communauté de Jérusalem. On n'en parle pas souvent. La famille de Jésus, c'est d'abord la Sainte Famille. Marie, Joseph, un parfum de pain d'épices autour de Noël. On sait aussi que Jésus a pris la peine de confier sa mère à Jean sur la croix. Mais la famille de Jésus, on entend souvent dans l'Évangile sur ses lèvres des paroles qui disent plutôt la distance avec sa famille. On vient d'entendre tout à l'heure la lecture au chapitre 3 de l'Évangile de Marc, qui le disait clairement. Qui sont ma mère et mes frères? Voici ma mère et mes frères, quiconque fait la volonté de Dieu. Voilà mon frère, ma sœur, ma mère. Eh bien, ça, c'est du recyclage des relations familiales. Ce regard du Christ autour de lui, ce regard en profondeur sur celles et ceux qui l'entourent, rend dans l'instant toutes ces personnes présentes plus que ses tout proches. On est là au cœur d'une des impulsions très importantes de la foi chrétienne qui naît dans un milieu où tout passe par la famille, où tout passe par la hiérarchie du père de famille, pour donner un espace où, sur pied d'égalité, vont se retrouver esclaves et hommes libres, femmes, enfants, hommes, riches et pauvres. Et cela alors même que l'entier de la société autour est structuré sur la valeur famille. Jésus donc ose prendre distance. Et si on continue à lire l'évangile de Marc, au chapitre 6, on va y entendre le célèbre « Nul n'est prophète en son pays » que Jésus dit à Nazareth, où il essaye de revenir, de prêcher à la synagogue. Mais là, il se heurte aux remarques de ses voisins, de ceux qui le connaissent un peu trop bien, qui vont dire « Mais on le connaît, lui, il est du coin, c'est le fils à Marie. » Je cite « Tout cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jude, de José, de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ?» Voilà ce regard des voisins, des tout proches, qui est porté à Nazareth sur Jésus, et on apprend au passage qu'il a 4 frères et des sœurs. La tradition catholique dira des demi-frères et sœurs que Joseph aurait eu auparavant. Mais nous lisons bien frères et sœurs. Alors ce point de vue si familier, si terre à terre, le fils à Marie, va bloquer Jésus. L'Évangile nous dit qu'il ne peut plus faire de miracle à Nazareth. Ça peut être fort, le poids du regard de la famille. Des fois, ça encourage à fond, des fois, ça porte. Et puis, des fois, ça bloque. Et là, Jésus repart et dit « Nul n'est prophète en son pays. » Ben alors, me direz-vous, pourquoi est-ce que vous nous parlez de Jésus, Jacques, frère de Jésus, ce matin? Ça n'a pas l'air d'être très important, ces histoires de frères et sœurs pour Jésus. Ben, dans le Nouveau Testament, de manière discrète, on a à plusieurs reprises des échos de traditions venant de la famille de Jésus. Par exemple, les disciples d'Emmaüs. On connaît le nom d'un des deux, Cléopas. D'autres sources nous disent que c'était l'oncle de Jésus. Ou alors le fameux récit de Jésus à 12 ans, quand ses parents le perdent en route, et qu'ils le retrouvent au temple. Et ce sont les premiers mots de Jésus dans l'évangile selon Luc. « Ne saviez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon père ?» Il a 12 ans, ce sont ses premiers mots du texte de Luc, et déjà il dit « Je suis en lien à quelqu'un d'autre, pas seulement à vous, je veux m'occuper des affaires de mon père. » L'évangile de Luc a prêté une attention toute particulière aux traditions venant de la famille de Jésus, notamment l'attention aux pauvres, avec ce qu'on appelle les malétitudes. Il y a les béatitudes chez Luc, mais aussi quatre malétitudes. Malheur à vous les riches, malheur à vous qui êtes repus. Cet élan, cette critique sociale, l'évangile de Luc a beaucoup été utilisé en Amérique latine dans les mouvements de soutien aux pauvres. Ce regard tourné avec ardeur et soutien envers les plus pauvres, et on le retrouve très fort dans la fameuse lettre de Jacques. Ah voilà, on a dans le Nouveau Testament tout de même une lettre mise sous l'autorité de Jacques, frère de Jésus. Peut-être que vous vous rappelez que Luther ne l'aimait vraiment pas trop, cette lettre de Jacques. Il l'appelait épître de paille. Calvin, lui, restera ouvert à lire l'entier du canon et à mettre les textes en écho les uns aux autres. Je vous lis un passage du chapitre 2 de la lettre de Jacques sur la question de la foi et des œuvres des riches et des pauvres. À quoi bon, mes frères, dire qu'on a la foi si on n'a pas d'œuvre? La foi peut-elle sauver dans ce cas? Si un frère ou une sœur n'ont rien à se mettre et pas de quoi manger tous les jours, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, mettez-vous au chaud et bon appétit », sans que vous leur donniez de quoi subsister, à quoi bon? Plus loin, Jacques compare les œuvres au souffle et proclame « Sans souffle, le corps est mort, de même la foi sans les œuvres. » On comprend que ça ne plaisait pas trop à Luther. Mais pourtant, le Nouveau Testament l'a bien gardé, cette lettre de Jacques. Et on sait que Jacques et Paul ne seront de loin pas d'accord sur tout. La foi et les œuvres, bien sûr, mais aussi accueillir ou ne pas accueillir à sa table des païens. Ils se disputent là autour, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2. C'est un fait, le Nouveau Testament que nous lisons, celui auquel nous sommes habitués, c'est celui qui a été façonné par les personnes qui ont suivi Pierre, Paul, Marie-Madeleine, les apéros bibles que nous avons eus cet été dans notre région ont été l'occasion de nous rappeler que Marie-Madeleine a été réhabilitée par le pape François, qui le 3 juin 2016 l'a proclamée apôtre des apôtres, comme elle annonce la résurrection aux apôtres. Mais la voix de Jacques, par contre, est plus mineure dans le Nouveau Testament. Et pourtant, comme nous l'avons entendu lu tout à l'heure, dont le plus ancien récit sur la résurrection, 1 Corinthiens 15, c'est vraiment le témoignage le plus ancien du Nouveau Testament sur la résurrection, Paul nous rappelle que le Seigneur est apparu à Jacques. Il est apparu ensuite à Jacques et puis à tous les apôtres. Elle est capitale, cette apparition à Jacques. Vous aurez noté qu'il ne fait pas partie des 12. Jésus n'a pas recruté son équipe dans les rangs familiaux. Mais n'empêche que le souvenir de cette apparition à Jacques a été conservé avec révérence par Paul. La grande surprise pour nous, c'est qu'on peut traverser le Nouveau Testament en long et en large, et c'est frustrant, mais nous n'avons pas le récit de l'apparition de Jésus à Jacques. Il faut se promener dans d'autres textes chrétiens anciens qui, eux, en ont gardé le souvenir, probablement des milieux qui étaient plus proches de Jacques. Et ce fut un tournant pour Jacques. Elle a lieu près du temple. Il avait promis de ne plus boire et manger avant de revoir son frère. Et cette apparition du Christ ressuscité, de son frère vivant après la mort, va-t-on le bouleverser qu'il prend la commande, le lead de la communauté chrétienne à Jérusalem et va, comme je l'ai raconté avant, prier tous les jours dans le temple. L'intuition de Jacques, ce qu'il espérait de tout son cœur, c'était le salut d'Israël, reconnaissant la justesse de ce que son frère avait proclamé. Il était droit et clair, on l'a surnommé Jacques le Juste. Il y a un très beau livre de Simon Mimouni, chercheur en études juives, qui s'appelle Jacques le Juste, si vous voulez en savoir plus. Jacques avait à cœur notamment de partager les richesses. Et il va tant en faire dans ce temple de Jérusalem qu'il va agacer les autorités. Et ça se finit très mal. En 62, il est précipité du haut du temple de Jérusalem et meurt. Le choc sera immense pour les premiers chrétiens de Jérusalem. Avec le temps qui passe, ils avaient appris à compter sur la prière de Jacques, sur son intercession pour Israël. Et les temps vont devenir encore plus durs, car Pierre et Paul seront mis à mort en 64 à Rome, et finalement, le temple de Jérusalem détruit en 70. En l'espace de 8 ans, ces communautés chrétiennes, pleines d'esprit, si vives, mais encore toutes jeunes, vont perdre le chef de Jérusalem, Jacques en 62, Pierre et Paul à Rome en 64, et finalement, voir la maison, le temple détruit en 70. Les chrétiens de Jérusalem s'enfuient en Syrie à Pella. Et il va leur falloir bien du temps pour y voir clair. Et c'est à ce moment que sera rédigé l'évangile selon Matthieu, dans cette région, probablement. Comment comprendre tout ce qui s'est passé en une génération? Nous ne pouvons être que modestes sur le temps qu'il faut pour comprendre un événement. Quand on pense à nos propres vies, des fois il faut des dizaines d'années pour vraiment savoir ce qui nous est arrivé à un moment donné. Ou alors si on pense à notre histoire ici en Suisse, combien de temps n'a-t-il pas fallu pour qu'on y voie un peu plus clair sur ce qu'est devenu l'or des Juifs dans notre pays, autour de la Deuxième Guerre mondiale et ensuite. Et a-t-on fini d'en parler? Peut-être même pas. Si on compare avec ces deux types d'événements, on ne peut qu'être plein de reconnaissance envers les premières générations de chrétiens qui, à force de prières, de partage de la scène, de réunions dans les chambres hautes, ont pu faire quelque chose de tous ces événements pour y laisser transparaître la voie de l'Évangile. Alors avec le temps qui passe, on oubliera l'intercession répétée de Jacques au temple. Peut-être avait-il fait un peu fausse route, se dira-t-on. Et on gardera mémoire plutôt des paroles de Jésus qui rappellent que « Quiconque fait la volonté de Dieu, voilà ma mère, mon frère, ma sœur. » Qu'est-ce qui nous fait du bien cet élargissement? C'est un élargissement aux dimensions de la tablée de scène parmi toutes les richesses de notre tradition protestante. J'aime infiniment la tablée de scène où nous retrouvons parfois nos familiers, époux, épouses, frères, sœurs, pères, mères, mais aussi plein d'autres personnes, nos frères et sœurs. Et le moment où nous sommes rassemblés, et où nous nous regardons les uns les autres à la bonne distance, est une image très forte de la communion des saints qui dépasse les frontières du temps et des lieux. Cette communion invisible et priante ne cesse d'intercéder pour nous. Parmi eux, j'en suis sûre, Jacques, obstiné comme il était, continue de prier pour nous, son peuple. Les gens de sa communauté nous ont transmis ses paroles simples et claires dans sa lettre. Et alors que diacres et pasteurs font leur service en interprétant pour vous à longueur de dimanche la parole, le grand bonheur avec ce passage de la lettre de Jacques, c'est qu'il n'a pas besoin d'être interprété tant il est clair et parle de lui-même. À quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas d'œuvre? La foi peut-elle sauver dans ce cas? Si un frère ou une sœur n'ont rien à se mettre et pas de quoi manger tous les jours, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, mettez-vous au chaud et bon appétit », sans que vous leur donniez de quoi subsister, à quoi bon? Puissions-nous faire de Jacques, frère du Seigneur, un peu plus notre frère, à nous aussi, en nous mettant au service des plus pauvres. Amen.